Radio Django. Culture.
18h45, on passe à Cultiver Lausanne et aujourd'hui la librairie Basta est de retour sur les ondes de Django et nous accueillons Laurence Deveau. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue. Vous allez nous présenter deux livres ce soir, deux livres qui sont vos choix et ce choix s'est porté sur deux ouvrages construits autour de la question de la filiation, de l'initiation du rapport au père et à la mère. Jean-Luc, peut-être quelques mots ?
Oui, alors le premier est l'œuvre de Paolo Cognetti, hein, s'appelle Les Huit Montagnes, c'est paru aux éditions Stock, la Cosmopolite. C'est l'histoire d'une rencontre entre Pietro, un petit Milanais qui vient régulièrement avec ses parents à Grana, qui est situé au cœur du Val d'Aoste, et Bruno, un gosse lié à la montagne. Bruno initie Pietro au secret de la montagne, ensemble ils parcourent alpages, forêts et glaciers. Une amitié née forte et indéfectible. L'image du père est très présente puisqu'il emmène aussi son fils sur les cimes où la végétation disparaît, où la nature devient plus âpre. 20 ans plus tard, après une période citadine, Pietro retourne à Grana auprès de son ami et tentera de se réconcilier avec son passé.
Laurence, cette histoire brièvement résumée en cache des multiples autres. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à rajouter sur cette présentation ?
Alors effectivement, c'est une amitié magnifique, une amitié où deux milieux sociaux s'affrontent, la ville, la montagne. Et c'est vraiment aussi un texte où le chemin de vie de chacun des protagonistes est mis en avant.
Mais le père donc, est extrêmement présent. Il y a une histoire un peu tragique autour du père. Enfin, il essaye d'emmener son fils, il y a une espèce d'initiation. Quelques mots là-dessus aussi, sur ce rapport entre le père et le fils.
Alors, le père est un personnage assez particulier, puisqu'il est très préoccupé par son travail. Et à la ville, c'est un homme assez inatteignable. Mais dès qu'il arrive à la montagne, eh bien, c'est un père disponible qui a envie de transmettre à son fils cet amour de la montagne. C'est vraiment deux personnages, je veux dire, deux facettes du personnage qui sont bien distinctes selon le milieu dans lequel il se trouve.
Et Paolo Cognetti construit son livre de manière très particulière. Il nous envoie, il y a plusieurs étapes. Expliquez-nous un peu comment il construit ce livre avec ce côté un peu initiatique.
Alors effectivement, il est construit un peu comme peut être construit la vie d'un homme, et plus particulièrement celle d'une éducation avec des étapes. On suit les personnages au gré de leur vie avec ces différentes étapes qu'ils franchissent.
Mais les beaux espaces, quand ils sont très jeunes, là, quand il arrive, Pietro, il arrive à l'âge de 10 ans, en fait, et il est emmené par ce jeune garçon qui est très attaché à la montagne. Et c'est incroyable ce qu'il arrive à lui faire découvrir de cette montagne.
Oui, effectivement. C'est une amitié pas comme les autres, parce que finalement, ils ne se disent pas beaucoup de choses. Elle n'est pas tellement verbale, mais elle est plutôt dans les fêtes où ils partagent du travail, des balades, des choses sans parole. Et ça permet à la montagne de prendre toute sa puissance dans l'écriture. Elle est là, comme tu le disais, c'est un véritable personnage qui les accompagne, qui les soulève.
Et le père met en évidence aussi ça, parce que le père, il veut toujours faire des exploits, en fait. Le père, ce qui est incroyable, c'est qu'il monte rapidement, enfin, il est soufflé, etc. Il a envie que son fils le suive partout. J'ai trouvé ça quand même assez prenant, quoi, toujours cette espèce de défi face à la montagne. Et le fils le suit, et pas toujours. Quoi. C'est ça qui est assez extraordinaire, je trouve.
Ouais. Il se réalise dans ses courses frénétiques, ses courses folles. Et il a envie de transmettre cette passion à son fils, ce qui est pas toujours évident. De transmettre une passion, ça dépend de l'individu qu'on a en face de soi. Et c'est vrai que son fils, il met quelques réticences à un moment donné.
Alors, ce qui est quand même très particulier, c'est qu'il y a un des enfants, Bruno, qui est très attaché à la montagne, et l'autre qui va sporadiquement à la montagne et qui finalement voyage. Quelque part, en fait, sur ce cheminement des deux personnages qui est quand même assez différent, mais ils sont quand même associés, ils s'associent quand même pour leur recherche de la vie, de l'existence.
Oui, effectivement, Pietro, le fils de la ville, je dirais qu'il a des difficultés à trouver son chemin de vie, ses racines. Et à travers son parcours, il va beaucoup bouger. Il va aller même jusqu'en Himalaya. Alors que Pietro, pardon, que Bruno, le fils de la montagne, lui, il a vraiment compris où il doit vivre et où il doit rester. C'est un texte magnifique parce que c'est deux quêtes de liberté, une même quête de liberté dans deux individus différents à travers les âges, et de liberté et d'accomplissement de soi. Et c'est vrai qu'ils n'usent pas le même chemin puisqu'ils sont fondamentalement différents l'un et l'autre.
Alors, il y a une très très belle histoire que raconte un vieux Népalais à Bruno lors de son voyage. Il parle des huit montagnes, donc ça donne le titre du livre. Et il en parle comme ça, quoi. Il y avait une montagne sur laquelle j'avais grandi. Ça, c'est Pietro qui parle en allant en Himalaya et qui dit « Eh ben voilà, j'ai eu envie d'aller en Himalaya parce que c'est les plus belles montagnes. » Donc le monsieur, le Népalais, lui réplique « Ah, dit-il, je vois que tu fais le tour des huit montagnes. » Et là, il se met alors à dessiner une roue à huit rayons qui représente les huit montagnes. Au centre du monde, il y a un autre beaucoup plus haut, le Sumeru. Et autour du Sumeru, il y a huit montagnes et huit mers. Il lui dit « C'est le monde pour nous ». Et après avoir planté son bateau au centre, il conclut « Nous disons, lequel des deux aura le plus appris, celui qui aura fait le tour des huit montagnes ou celui qui sera arrivé au sommet du mont Sumeru ?»
Effectivement, on peut vraiment se dire qui est-ce. Quel est lequel des deux a le plus appris ? Est-ce que c'est Bruno ou c'est Pietro ? Finalement, c'est un résumé de cette histoire, de ce que tu viens de nous conter.
Et l'histoire se poursuivra. On ne va pas tout raconter le livre, mais c'est vrai que je me suis entraîné dans l'univers de la montagne, hein, par toutes ces questions de transmission, ces rituels de passage, le mythe de la nature, le choix de sa vie. Ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a, des passages étonnants par rapport à le choix de sa vie. Ils s'interrogent l'un et l'autre sur ce qu'ils doivent faire dans cette vie.
Ouais.
Et ça, je trouve aussi assez admirable, quoi, ce contact entre ces deux êtres par rapport à ça. Donc voilà, l'histoire des huit montagnes, elle illustre bien la quête de chacun, mais nous n'allons pas divulguer la fin de l'histoire et nous invitons nos auditeurs à lire ce roman.
Laurence, peut-être encore quelques mots sur l'auteur, hein, qui entretient un rapport très particulier avec la montagne, fort et tourmenté. Il parle d'ailleurs, hein, dans Le garçon sauvage, carnet de montagne, paru en traduction française, c'était en 2016 chez Zoé. Cette perception qu'il a de la montagne ?
Alors, je dirais que, en tout cas, pour Les Huit Montagnes, c'est un roman qui est passablement autobiographique sur certains aspects. Et celui que vous venez de citer, c'est son histoire aussi un peu à lui, puisqu'il a tout d'abord suivi un cursus universitaire. Il a fait des études de mathématiques qu'il a abandonnées pour faire une école de cinéma. Et à 30 ans, il a tout plaqué et il est monté à la montagne. Et ce titre que vous venez de citer, c'est sa montée à l'alpage. Il avait l'objectif d'y passer toute l'année, mais le temps venant, l'âge, les années passant, aujourd'hui, il dit bien qu'il passe que l'été à la montagne, mais pas toute l'année.
Alors, un petit clin d'œil, on va passer un petit extrait.
Un petit extrait, oui. Un petit
de la
extrait.
Montagne de Jean Ferrat.
Bah oui, parce qu'on parle de montagne.
Il quitte un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal, d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Pleurs de sa tête, il fait monter des murettes jusqu'au sommet. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire, s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, autrement peut-on s'imaginer? En voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver.
L'automne est arrivé avec Jean Ferrat La Montagne, titre de 1965, hein, pour illustrer ce premier ouvrage. Un deuxième livre que vous avez choisi, Laurence, L'alphabet du matin, publié à L'Air Bleu, est d'une autrice romande, Alice Reva. Ce livre évoque magnifiquement son enfance, hein, à Clarens, au début du XXe siècle. Alice Reva est née en 1901, pour être tout à fait précis. C'est aussi un livre qui parle de filiation.
Il ne s'agit pas d'Alice Reva, mais d'Alice Riva.
Riva, pardon.
Il n'y a pas de souci.
Non, Reva, ce serait valaisan, ça plutôt.
Effectivement. Alors là, effectivement, c'est un livre de filiation. Et pour mieux comprendre d'où elle vient, cette auteure, je vais vous dire deux mots d'abord sur ses parents.
Oui.
Parce que ce récit, il s'agit de son récit de toute petite enfance, soit de très petite jusqu'à l'âge de 10-12 ans. Et donc, elle est issue d'une mère qui est née à la fin du 19e siècle. Cette mère a perdu son père très jeune et entre l'âge de 10 et 15 ans, elle est partie pour faire vivre sa famille comme jeune fille au père en Angleterre et en Allemagne. Mmh. Chose étonnante au 19e siècle. Et ensuite de quoi elle est rentrée en Suisse et elle est partie dans les ordres. Mais elle a rencontré le père d'Alice Riva qui, lui, était un instituteur. Il s'appelait Paul Gaulet. Et ensemble, ils ont eu cette petite Alice, effectivement, comme vous l'avez dit, en 1901. C'est un récit absolument extraordinaire parce que j'entends ce récit a été écrit alors qu'elle avait 64 ans. Donc, on a les yeux de l'adulte qui raconte sa petite enfance. On a les yeux de l'auteur bien...
Elle a vraiment des souvenirs incroyables.
Incroyables. Et pour nous aussi, c'est une source, une richesse de voir cette époque... De voir Clarens à cette époque-là, la Riviera à cette époque-là.
D'ailleurs, elle parle avec beaucoup de finesse de l'intimité familiale et aussi elle décrit avec force détail l'environnement. C'est vraiment une fresque de la société de l'époque.
Effectivement, à travers une famille très politisée, puisque vous m'entendez toujours.
Oui, on vous entend, mais ce micro, il pose quelques petits problèmes. On va éviter de trop le toucher, voilà.
D'accord.
Il fonctionne.
Parfait. Donc, je disais, elle est issue d'une famille très politisée, puisque son père est socialiste engagé, et sa mère encore très empreinte de protestantisme. Et on a ces deux paramètres qui vont conditionner son regard sur ce qu'elle va vivre naturellement. Et c'est particulièrement intéressant.
Il y a deux exemples en relation avec le tourisme, avec les Anglais qui viennent à Montreux.
Ah oui,
pourriez-vous m'expliquer un peu ces anecdotes qui sont incroyables, quoi.
Ah, c'est vraiment délicieux, quoi, effectivement. Alors, le père, bien sûr, une horde d'Anglais arrivait à la gare de Montreux avec des valises, des limousines qui les attendaient. Les hôtels avaient été construits en fonction. Et ils étaient tous accueillis comme des dieux à cette époque-là à Montreux. Et le père d'Alice a ce mot assez acerbe en disant que toute la petite armée au service de l'étranger, l'armée suisse au service de l'étranger, sont vraiment mobilisés pour recevoir tous ces étrangers qui vivent sans travailler et qui finalement sont le fruit de la colonisation. Je veux dire, le fait qu'ils ne travaillent pas, c'est le fruit de la colonisation, quoi. Ça, c'est assez percutant comme remarque. Et puis, dans les petites anecdotes, on voit ces étrangers avec des habits neufs qui sortent quasi du tailleur, qui se changent plusieurs fois par jour, alors qu'en opposition avec les locaux, eux, ils ont des habits reprisés, encore reprisés, et ils ont des habits corrects pour le dimanche. Mais ça s'arrête là. Et c'est vrai que leur façon de se laver aussi est étonnante. Chaque jour, ils prennent un bain dans une salle de bain luxueuse de palace, alors que les locaux, ils ont des bassines en cuivre qu'ils utilisent une fois le samedi pour prendre un bain, mais dans la chambre à lessive ou dans la cuisine. Et on est vraiment dans la confrontation de deux mondes différents, quoi. Et nous, Suisses d'aujourd'hui, on a peut-être aussi oublié, la pauvreté, ou je veux dire le côté démuni de la population qui était à ce moment-là.
Et moi, je soulignerais comme la force de cette écriture, que je trouve que c'est une écriture ciselée, extrêmement précise.
C'est magnifique.
Des fois un peu précieuse, mais un sens de la narration incroyable. Ouais. Description des détails, les sentiments de petite fille quand elle va visiter sa grand-mère. Enfin, c'est très délicat, donc je vous invite vraiment aller lire ce livre.
Non, ça donne envie,
en tout cas. Assez extraordinaire.
C'est superbe.
Et on les a ici sur la table. Ça donne tout à fait envie quand on les voit. Aussi, la couverture extérieure et tout, c'est tout à fait alléchant. Des bonnes lectures pour la période hivernale au coin du feu.
Absolument.
Les deux livres que vous nous avez apportés, Laurence Devaux, de la librairie Basta, Les Huit Montagnes de Paolo Cognetti aux éditions La Cosmopolite Stock, qui a obtenu le 71e prix Strega 2017, c'est l'équivalent italien du prix Goncourt. Hein, oui. Le prix Goncourt qui est
il a obtenu le prix Médicis étranger aussi pour la francophonie.
Hein. Ah oui. Il cumule les étoiles et les trophées. Voilà, une raison de plus pour le lire. Et le deuxième ouvrage dont on parlait à l'instant, L'Alphabet du matin de Alice Riva aux éditions L'Air bleu. Ces ouvrages sont à retrouver bien sûr à la librairie Basta située au Petit Rocher 4 à Lausanne. Voilà pour cette découverte littéraire. Merci beaucoup Laurence Devaux.
Avec plaisir.
À tout bientôt pour des prochaines et futures découvertes littéraires.
Oui.
Peut-être avant le printemps, voire même avant l'été. Ça, on en est quasiment sûr. Une belle soirée à vous.
Vous aussi.
Et bien, on vous met tous les liens et les détails sur notre site www.django.fm. Merci Jean-Luc pour
le présent de ce sujet.